Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue en direct sur les ondes de Radio Royan Vercors. Une fois n'est pas coutume, c'est un direct et c'est l'émission Micro-ondes, notre nouvelle émission sur les ondes de Radio Royan Vercors. Aujourd'hui, je n'ai pas trois invités, mais j'en ai un de qualité, qui s'appelle Naïm, aka l'inconsolable. Bonjour Naïm.
Bonjour Céline.
Merci de jouer le jeu de ce nouveau direct, de venir dans nos studios pour ce direct. On s'est déjà vu, on a déjà fait une interview ensemble. C'était à l'occasion de la sortie de ton dernier album Contrefort en novembre 2024. Mmh. Et là, tu reviens dans nos studios parce que donc il y a eu Sauvage en 2020, Feral en 2022, donc Contrefort en 2024. Et là, tu reviens en 2026 avec un projet inédit, un peu audacieux, on pourrait dire, un peu aventureux, un album qui s'appelle Nos rêves font des forêts. Très beau titre d'ailleurs, je voulais te le dire. Entièrement instrumental. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de ce projet, Naïm?
Eh bien, effectivement, il y a eu ces trois projets que tu as nommés, puis il y a eu aussi entre-temps le projet du groupe B12 dont je fais partie, Que la Salade, qui est sorti en 2023, donc ça a été chargé ces dernières années. Et j'avais, je pense, ce sentiment de l'envie en tout cas de laisser aux mots le temps de voyager un peu et à travers les montagnes et autres et de rencontrer leur destinataire, de pas tout de suite reprendre à nouveau avec des mots. En tout cas, c'est ça que je me suis dit après la sortie de Contrefort. Laissons le temps à ce disque de circuler, de faire sa vie. Et puis le temps passant, par contre, j'ai eu très envie et puis très besoin de composer, puisque chez moi, c'est souvent un besoin qui se fait sentir. Et donc, je me suis remis à la composition sans trop savoir où j'allais. Et rapidement, l'idée de faire un disque strictement instrumental a émergé. Bon voilà, c'était vraiment au début c'est vrai que c'était très c'était un peu audacieux parce que j'avais jamais fait ça et c'était donc un peu un paysage musical nouveau qui s'ouvrait à moi. Comme je le disais, je savais pas trop où j'allais et puis rapidement quand même l'idée s'est un peu mise en place, j'ai commencé à entrevoir un peu ce que ça pourrait être, à réunir quelques bribes de composition, à trouver aussi un axe un petit peu fédérateur qui pourrait les relier entre elles et puis voilà, j'ai commencé à composer ce disque Nos rêves font des forêts.
Ouais, quand on a évoqué cette interview puis que j'ai commencé à y travailler puis j'ai écouté aussi tout cet album, je me suis dit mais toi qui composes et à la fois qui écris tellement, comment t'as travaillé ça pour pas avoir l'envie ou que les mots finalement s'invitent malgré ta décision et ton élan de le faire que instrumental. Est-ce qu'il y a pas des mots qui venaient se glisser quand même à des moments que tu devais mettre un peu de côté? Comment ça s'est travaillé à l'intérieur de toi ça?
Alors non, il y a pas du tout de mots qui sont venus se glisser, étonnamment peut-être parce que je pense que comme tu le disais, comme j'ai toujours été en même temps que rappeur beatmaker. Donc j'ai toujours fait de la composition musicale pour mes propres instrus et puis de temps en temps aussi pour d'autres. Le fait de composer de la musique en soi, ça appelle souvent des mots, mais ça ne les appelle pas nécessairement. Il y a quand même je pense qu'il y a deux espaces-temps quoi. Il y a l'espace-temps de la composition où des fois je suis avec et seulement avec la musique. Et par ailleurs, moi, j'ai aussi beaucoup écouté de musique instrumentale dans ma vie. Il y a eu une époque, notamment, il y a quelques années, où j'écoutais beaucoup Bonobo, un artiste anglais, RJD2, Wax Taylor, DJ Shadow. Enfin, un certain nombre d'artistes qui travaillaient comme ça sur quelque chose qui s'apparente qui vient quand même plutôt du hip-hop. Sur la base musicale, mais qui est strictement instrumental. Bon, je dis strictement, en vérité, il y avait un peu de samples de voix issues d'un film, d'un reportage, d'une prise de parole politique, des scratchs, des choses comme ça. Mais par contre, généralement, sauf exception, quand il y avait un chanteur ou une chanteuse ou un rappeur invité, il y avait que de la musique, quoi. Et c'est quelque chose que moi j'ai toujours apprécié beaucoup, quelque chose qui moi-même en fait m'a nourri, m'a fait voyager aussi, m'a ému. Donc j'étais déjà acquis à la cause que la musique par elle-même a des choses à dire, quoi. La musique par elle-même peut parler, elle a des choses à dire, elle peut émouvoir, elle peut faire réfléchir, et que les mots, c'est une autre manière de le faire. Il se trouve que moi, souvent, j'allie les deux. C'est, on va dire que c'est, pour moi, c'est souvent comme ça que ça se présente. Mais en tout cas, là, les mots sont pas venus, entre guillemets, polluer, c'est un peu fort
ouais,
comme
ou
mot.
Parasiter,
c'est
inviter,
ça.
Ouais.
Non, ouais, cet élan, au contraire, j'étais vraiment dans la musique, dans ce que je faisais. Et puis, on en parlera tout à l'heure, mais comme j'aime beaucoup le sampling, je me suis aussi plongé dans mes recherches musicales sur différents disques, différents registres musicaux aussi, où j'ai été puisé pour m'inspirer, pour trouver la matière par laquelle j'ai composé ce disque. Donc j'étais un peu tout, comment dire, complètement immergé là-dedans. Et finalement, j'étais au bout d'un moment, ça s'est fait sentir comme une évidence que ça allait être un disque instrumental, et après la question c'était juste est-ce qu'il y aura des petites séquences samplées de à droite à gauche. Bon, il y en a un petit peu sur un morceau qu'on entendra tout à l'heure, mais finalement c'est pas trop non plus trop présent.
Oui, puis tu le disais juste avant, souvent il y a des gens qui écrivent et puis il y a les beatmakers qui font toutes les, ce qu'on appelle les prods, quoi, les nappes instrumentales, qui travaillent ce sample, tout ça. Toi, t'as cette particularité d'allier les deux. Et je me demandais, dans le paysage du rap français ou même international, est-ce que ça se fait que des gens qui ont l'habitude de rapper fassent des albums instrumentaux? Je me suis demandé si c'était quelque chose de courant.
Ça se fait de plus en plus, il me semble, notamment chez les beatmakers états-uniens et rappeurs états-uniens. C'est-à-dire que je dis les deux parce que en fait, il y a à la fois des gens qui à l'origine sont beatmakers et qui à un moment donné se mettent à rapper, ou en tout cas publient un album où il y a du rap aussi. Pour moi, c'était par exemple le cas de Kanye West, qui est à la fois un ennemi politique patenté,
oui,
trumpiste, à souhait, sexiste, enfin bon, tout qui
quelques cumule, casseroles au culieux ces derniers temps.
Qui cumule une longue liste de choses qu'on déteste, donc sur le plan politique, mais en tout cas sur le plan musical, qui a pour sûr apporté une pierre importante à l'édifice musical du hip-hop, qui a composé pour beaucoup beaucoup de rappeurs. Et pas tous de son bord politique, loin s'en faut. Et au début, lui, il s'est fait connaître pour ça, pour de la composition musicale. C'est-à-dire que Kanye West, il rappait pas, quoi. Et puis, à un moment donné, il s'est mis à rapper aussi. Donc, il me semble, autant aux États-Unis, ce chemin-là qui se fait dans ce sens-là, que l'inverse. C'est-à-dire des rappeurs qui sont aussi beatmakers et qui, à un moment donné, passent le pas. Je pense à Odyssey, que je suis beaucoup... qui est de Washington, qui est un rappeur que j'aime beaucoup et un beatmaker que j'aime beaucoup. Je pense à DK aussi, comme un décaféiné, DECA. Et puis Apollo Brown, par exemple, qui est... Alors lui, pour le coup, c'est pas un rappeur, c'est un beatmaker. Mais lui, il travaille avec des rappeurs. C'est-à-dire que souvent, quand un disque d'Apollo Brown paraît, c'est Apollo Brown et un tel, une telle. Il a fait un album avec une excellente rappeuse qui s'appelle Chez Noir, par exemple. Mais de temps en temps, Apollo Brown publie un disque d'instru, voilà, strictement musical, où c'est ses instrus, il n'y a pas d'invité. Donc là-bas, ça me semble assez courant. Ici, c'est vrai que ça l'est moins.
Ouais.
Ici, ça l'est moins. Ouais.
Ouais, ça me fait penser au documentaire. Je crois que c'était sur Arte qui a fait un tabac sur DJ Mehdi, qui est quand même un monstre du beatmaking et comment il a travaillé tout ça. Et c'était vrai. Enfin, je sais pas. J'invite les auditeurs et auditrices à aller voir ce docu. Tu l'as vu, j'imagine.
Ouais, je l'avais vu. Ouais, ouais, je trouvais très intéressant.
Ouais, ouais, sur comment il travaille tout ça et comment il est au service après. Et c'est des collaborations avec des poètes, finalement, qui posent des mots là-dessus. Donc, c'est vrai, peut-être qu'en France, ça se fait un peu moins.
Il me semble que oui. Peut-être que, quand même, c'est le cas. C'est aussi que je pense qu'il y a quand même un biais, c'est que j'écoute moins de rap francophone qu'anglophone, pour ma part. J'en fais pas mystère. Et donc peut-être qu'il y a des beatmakers qui sont associés à des rappeuses, rappeurs, de temps en temps sur des disques, qui, par ailleurs, font des disques instrumentaux, et je le sais pas. Mais c'est vrai que ça me semble quand même une pratique un petit peu moins courante, alors qu'aux États-Unis, ça se fait pas mal. Et moi, ça a aussi nourri, justement, je pense, mon imaginaire et puis mes goûts musicaux d'écouter ces disques-là et puis de voir que on pouvait passer de l'un à l'autre, quoi. On pouvait rapper et puis ne pas rapper et puis juste faire de l'instru et puis revenir à du rap.
Et quand on avait fait cette interview sur donc Contrefort, ton dernier album en 2024, je t'avais un peu cherché sur qu'est-ce que Habiter Ici avait fait à ta musique finalement, parce que c'était assez récent à ce moment-là. Maintenant, ça fait un peu plus de temps que t'es là. Je t'avais dit, est-ce que c'est l'album de la maturité, parce que du coup, tu fais des choses qui sont moins vindicatives, ou en tout cas moins frontales dans le discours politique, à la fois plus empreint du vivant, tout ça. Et du coup, j'avais envie de te chercher un peu là-dessus en me disant, avec cette nouvelle album, est-ce que je me suis dit, mais est-ce que Naïm, il en a marre des mots? Est-ce qu'il est fatigué de cette société qui est remplie de mots? On est assailli de discours en permanence en ce moment, mais toujours avec les réseaux sociaux, les contenus médiatiques. Ça m'est vraiment venu, tu vois, je me suis dit, mais est-ce qu'il en a marre des mots, Naïm?
Là, c'est une bonne question. C'est vraiment pour le coup une bonne question. C'est vrai que je pense qu'il y a aussi eu quelque chose un peu comme ça après la sortie de Contrefort, un disque dont j'étais content parce que, comme je te l'avais dit à l'époque, j'avais senti ce qu'habitait ce territoire m'avait fait aussi, et puis la manière dont ça avait affecté ma manière de faire de la musique et d'écrire. Donc ça, c'était assez réjouissant parce que c'était pas une décision, c'était plutôt un constat à partir de ce que je produisais comme musique à ce moment-là. Mais après la sortie, je pense que j'avais pas forcément envie de revenir aux mots tout de suite. Et peut-être justement un peu un ras-le-bol, en tout cas momentané au moins, hein, parce que je dis pas que je vais plus écrire là avec B12, on est sur le prochain disque de B12 en ce moment, donc voilà, mais peut-être une lassitude momentanée de l'omniprésence du langage verbal, quoi, et peut-être l'envie d'aller m'exprimer à travers un autre langage qui serait le langage musical ou instrumental. D'autant plus lassé de l'omniprésence des mots qu'effectivement, comme tu le dis, on est assailli de discours en fait de toutes parts dans la société dans laquelle on vit, et qui plus est ces derniers temps, enfin plus le temps passe plus c'est le cas, de discours qui sont où souvent les mots sont totalement dévoyés. Je veux dire là on voit bien avec CNews et avec d'autres médias d'extrême droite mais qui fleurissent et qui envahissent un petit peu l'espace médiatique et public. On voit bien à quel point les vrais fascistes maintenant seraient les antifascistes et les, enfin, tu vois
la
ce que je veux dire.
Ouais. Quoi.
Ouais, là, c'est ça, un espèce de renversement du sens des mots permanent qui fait qu'on est assailli de mots mais qui parfois ont le sens contraire du sens qu'ils ont originellement. Donc c'est extrêmement fatigant parce qu'en plus il faudrait lutter constamment pour pouvoir déconstruire le sens qu'ont pris ces mots et pouvoir réemployer à dessein. Les mots avec leur sens véritable. Ça demande un travail assez colossal. En vérité, ça demande un travail qui peut pas être fait en une seconde, surtout quand il y a une espèce de pignon sur rue comme ça de des voix et des médias d'extrême droite, quoi. Donc je pense que ça a un petit peu aussi peut-être concouru à cette envie de me dire là, je laisse les mots de côté pour un temps et je m'exprime à travers autre chose. Et après, pour répondre un peu sur la deuxième partie de ta question, effectivement, ça m'a pas échappé. Je me suis aussi dit ça quand même quelque part en composant cet album. À un endroit de la composition, je me suis dit, mais est-ce que c'est pas aussi là la suite de ce que me fait le fait d'habiter ici, que de me donner cette envie que j'ai jamais eue avant? C'est-à-dire que même si j'ai beaucoup écouté de la musique instrumentale depuis très longtemps, voilà, je fais du rap depuis... j'ai publié mon premier album en 2011, mais je rappe depuis l'âge de 12 ans. Et depuis ce moment-là, je me suis jamais dit, tiens, je vais publier un disque instrumental. Il a fallu que je sois ici, que j'ai publié Contrefort pour que l'envie me vienne. Donc, bon... Il y a une question qui reste en suspens là-dessus.
Ouais, ça s'impose peut-être à toi dans ton parcours artistique et à la fois dans ta vie. Enfin, de toute façon, l'un est toujours mêlé à l'autre. J'imagine bien quand on est dans la création, t'habites ici, tu prends tes racines ici. Peut-être il y a plus de silence. Et à la fois quand on marche dans la forêt ici, c'est rempli d'autres sons. La musique de la forêt, tout le vivant qui s'exprime autour de nous. Et du coup, je me suis dit aussi, il y a des titres intéressants. Il y a 8 titres. Ouais. Je vais pas tous les énumérer, mais je me suis dit après, dans ces compositions-là, il a fallu mettre des titres. Donc, il a fallu mettre des mots. Comment t'as choisi, alors que peut-être quand il y a des morceaux qui expriment des choses très clairement, qui sont sur des thématiques, peut-être le titre vient un peu naturellement, spontanément. Là, t'as une musique qui dit des choses, qui, où il y a son propre discours à cette musique-là, mais il faut mettre un titre. Comment t'as fait?
Ouais, ben ça, ça a été, autant te le dire, ça a été une sacrée paire de manches. Non, ça n'a pas été facile, justement, parce que j'avais l'habitude, comme tu dis, comme il y avait du texte qui produisait du sens, un sens immédiatement accessible à la raison, quoi. Du coup, le titre s'imposait souvent assez facilement. Enfin, en tout cas, je pouvais le trouver assez facilement. Comme par exemple avec éco-terroriste, c'était pas très compliqué. Mais ici, j'avais un problème qui était nouveau pour moi, c'est que j'avais des morceaux instrumentaux qui certes m'évoquaient des choses, certes provoquaient en moi des émotions, mais me rendaient pas accessible un sens immédiatement, voilà, clair, rationnel. Donc c'était pas évident que tel morceau allait s'appeler comme ci ou comme ça, ou qui parlait de ci ou de ça, en fait. Et puis d'ailleurs j'aime bien cette idée que y a une je pense que c'est déjà un peu le cas dans Contrefort, avec une dimension poétique un peu plus assumée que sur des précédents disques qui étaient très beaucoup plus terre à terre, beaucoup plus je sais pas comment dire, mais ancré dans l'ici et maintenant de la politique, etc. Dans Contrefort, il y avait cette dimension poétique où je me disais, ça laisse aussi une part un petit peu plus grande à l'interprétation chez l'auditrice ou l'auditeur. C'est-à-dire que du coup, il y a de la place en gros pour pouvoir faire quelque chose de ces images, de ces mots, et essayer d'en comprendre ce que chacun en comprend, quoi. Et donc j'aime bien ça. Et puis là, je pense que dans ce disque, ça, c'est aussi vrai parce que justement, c'est de la musique. Donc même si, comme je le disais, je pense que la musique, elle parle, elle parle. Parle un langage qui est quand même différent du langage verbal et justement c'est un langage qui là aussi laisse une part importante à l'interprétation et donc ça a pas été facile du tout. À vrai dire, j'ai eu beaucoup d'aide de ma compagne Métis. Je lui ai fait écouter les morceaux et puis on a beaucoup discuté de chaque morceau, etc. Et puis Nos rêves font des forêts, moi ça m'est venu d'une phrase issue de l'album Contrefort et du morceau Contrefort où je dis je crois que c'est au début du deuxième couplet, on atteint des sommets, oser prendre congé de l'oseille, nos rêves font des forêts, poussent comme fougères ronds ces groseilles. Et j'aimais bien cette image, et donc j'ai comme le thème de la forêt, du rêve aussi, et puis de quelque chose comme une résistance, une lutte qui s'opère à travers à la fois le rêve et les manières qu'on pourrait trouver de le matérialiser, et puis aussi une manière de retrouver des liens aux vivants, à la forêt, à la montagne, et puis à tous les vivants qui l'habitent. Comme c'était des thèmes qui me semblaient présents dans ma tête, en tout cas dans mes émotions en composant ce disque, je me suis dit que ça marchait bien comme titre. Et après, pour les autres titres, Métis a décidé de, il y a quelque temps, de se plonger un petit peu dans Ursula Le Guin. Il se trouve qu'elle a publié un recueil de textes théoriques qui s'appelle Danser au bord du monde.
Autrice américaine, ouais. Mondialement connue pour ses essais de science-fiction féministe, je sais pas si on peut le dire comme ça, un peu pionnière là-dedans.
Ouais, précurseur. Et puis qui en fait a été découverte assez tardivement ici, puisque traduite assez tard en français. Et c'est vrai que moi-même j'en ai par exemple jamais lu. Enfin là j'ai commencé un roman il y a peu, mais j'avais jamais lu. J'en avais beaucoup entendu parler par contre. Et donc Métis, elle avait lu des essais théoriques avant, et puis là elle voulait lire aussi des nouvelles, des romans. Et donc il se trouve que il y a un recueil donc qui s'appelle Danser au bord du monde, et qui a une phrase qu'elle a elle-même repris de populations natives des États-Unis. Je crois que là la traduction littérale c'était danser sur le bord ou sur le rebord du monde, et qui s'est transformé pour son livre en Danser au bord du monde. Mais j'aimais beaucoup cette image, en fait. Je la trouvais très très puissante. Pour moi, ça m'évoquait beaucoup de choses. À un moment donné, je me suis dit ça pour cette chanson, ça m'évoque ce genre d'image, ça me fait penser à ça, ça marche bien, ça rencontre quelque chose, quoi. Et pareil sur un autre exemple, sur It's All I Do, morceau qu'on entendra en fin d'émission. Là, j'avais vu il y a peu un documentaire qui s'appelle Soundtrack to a Coup d'État. Un documentaire d'ailleurs vraiment brillant, très très intéressant, sur la manière dont s'entremêlent dans les années 60 en particulier, 60-70, des espèces de coups d'État, de mainmise politique des États occidentaux en Afrique, et les revers qu'ils rencontrent, et puis la musique, le jazz notamment, états-unien, et comment le jazz, qui à la fois est une musique de libération, d'émancipation, faite par des Noirs, en tout cas au départ, aux États-Unis, se retrouve instrumentalisé, en tout cas... Il y a des tentatives de l'instrumentaliser des présidents américains de cette époque-là en envoyant des espèces d'ambassadeurs jazzmen en Afrique pour essayer de faire valoir la cause des États-Unis. Donc il y a un entremêlement de la BO d'ailleurs est incroyable, et il y a un entremêlement justement de musique et politique, mais vraiment pour le coup au sens premier du terme, c'est-à-dire que c'est réel en fait, c'est pas un entremêlement fantasmé quoi. Et c'est assez passionnant. Et donc ce documentaire, il y a dedans Duke Ellington, un pianiste, un grand pianiste de jazz qui parle et qui dit ces mots qui en fait entament ce morceau que j'ai fait là, It's All I Do, qui dit dreaming, it's all I do, it's dreaming all the time. Et celui qui l'interview lui dit, but don't you play piano? Et il répond, no, this is not piano, this is dreaming. Et il se met à jouer. Et ça, c'est absolument, ça me donne des frissons juste de le dire. En fait, c'est très très beau en fait, la
c'est
façon
très poétique, ouais.
C'est
ouais.
très poétique, ça semble parfaitement spontané. Et l'idée d'une rêverie qui se donne à entendre à travers la musique du piano, bon voilà, ça m'a beaucoup ému. Donc, je pense sur une suggestion de métier après discussion à un moment donné, on a repensé à ça et puis on s'est dit que ça correspondait bien à ce morceau.
Ouais. Et bah tu fais une transition parfaite avec cette première pause musicale justement de Duke Ellington, Charlie Mingus et Max Roach. Qui constitue le sample principal de It's All I Do avec ce morceau fleurette africaine. C'était une de tes suggestions pour se mettre dedans, et puis on va dans la deuxième partie de notre interview parler plus justement du sample.
Okay.
On écoute ça. Thank you. Vous êtes toujours sur les ondes de Radio Royan Vercors en direct dans cette émission micro-ondes, notre direct du jeudi midi. Je reçois Naïm, l'inconsolable, aujourd'hui pour parler de la sortie de son dernier album, Nos rêves font des forêts. Dans la première partie de cette émission, on a plus discuté autour de cette question de faire un album instrumental, qui est pas banal. Et là, dans cette deuxième partie, là, on vient d'écouter Fleurette africaine de Duke Ellington, qui est un des samples principaux de It's All I Do, dont on a déjà un peu parlé. J'avais envie que tu nous racontes un peu ce travail du sample, qui est toujours important dans toi, dans tes compositions, mais qui là est central dans cet album. On en avait déjà un peu parlé quand tu étais venu présenter l'album Contrefort. Le sample, c'est aller chercher des bouts de phrases, de mots, de sons, et les travailler, les triturer pour en faire autre chose. Comment tu t'y es pris et est-ce que ça a été une évidence pour toi, certains samples, enfin, il y en a qui t'ont parlé d'entrée de jeu.
Alors je m'y suis pris un peu comme je fais toujours, c'est-à-dire comme je fais sur des albums où je rappe ensuite. Je pense que le sample, ça nécessite déjà un grand amour de la musique et du temps mis à disposition pour écouter de la musique, quoi. Il se trouve que moi, j'écoute pas mal de musique, jamais suffisamment à mon goût, mais en tout cas, j'écoute des musiques assez différentes. Et donc, je pense que oui, là, c'est un peu comme souvent, c'est-à-dire qu'il y a un élément qui me frappe dans un morceau. Souvent, quand j'écoute de la musique, et ça, c'est un peu une déformation professionnelle, un peu, entre guillemets, du beatmaker qui a recours au sampling, c'est que on écoute les morceaux avec deux grilles d'écoute, une première juste d'écoute par pur plaisir, quoi, et une seconde où on a toujours une espèce de petite diode allumée dans le cerveau qui tente de repérer des endroits qui pourraient être isolés et mis en boucle pour créer une instru. Ça, c'est inévitable pour moi, c'est-à-dire que même j'ai pas besoin de me le dire, j'arrive pas à ne pas le faire, par contre. Donc à chaque fois que j'entends de la musique n'importe où, des fois j'entends quelque chose et je l'entends en boucle et je me dis ah tiens ça c'est intéressant, je vais prendre la référence et puis après je vérifie que mon intuition était bonne. C'est pas toujours le cas, mais donc là je pense que j'ai fonctionné relativement de cette manière-là globalement comme je le fais souvent. Et là, par exemple, pour le sample de Fleurette africaine, il se trouve que, bon, décidément, Métis a une grande place dans ce disque. C'est un morceau qui est extrait d'un disque qu'elle m'a fait découvrir. Je connaissais bien sûr Duke Ellington, Max Roach, un grand batteur de jazz, et puis Charles Mingus aussi, super contrebassiste de jazz, qui m'avait été fait, moi, ce que j'ai surtout découvert en lisant une biographie de lui qui s'appelle Moins qu'un chien qui est vraiment très très belle et très forte, quoi, politiquement et enfin sur le plan politique et musical, sur la place des Noirs dans la société états-unienne de ces années-là. En tout cas, je connaissais ces artistes, mais je connaissais pas ce disque. Ils ont fait un disque tous les trois ensemble qui s'appelle Money Jungle. Et que Métis, il se trouve qu'elle le connaissait bien et qu'elle l'avait beaucoup écouté à une époque, et elle m'en a parlé ou elle me l'a fait découvrir au même moment où j'étais en train de composer ce disque, moi. Et donc j'ai beaucoup aimé, et puis je suis tombé sur ce morceau Fleurette africaine là que j'ai trouvé très très beau, et il se trouve que ce morceau il revient dans le film Soundtrack to a Coup d'État dont je parlais tout à l'heure, un peu par pur hasard, mais on l'entend dans le film, donc c'était un peu un signe. Donc par exemple là, ce sample il s'est un peu imposé à moi, il m'est arrivé par Métis, il m'est arrivé par le film, je l'ai réentendu dans un autre documentaire, peut-être était-ce sur les Black Panthers ou quelque chose comme ça, en tout cas sur les luttes pour les droits civiques aux États-Unis dans les années 70. Et là, je me suis dit bon, c'est trop, il faut que je me penche là-dessus, quoi.
Trop de synchronicité.
Ouais,
quoi.
C'est ça. Donc voilà, là, ça s'est fait comme ça. Après, c'est vrai que souvent, ce que j'ai fait, alors ouais, je redis un peu ce que t'as dit rapidement, c'est donc le sampling ou l'échantillonnage pour le nom francisé, c'est cette technique de composition musicale qui consiste à aller prélever dans des enregistrements préexistants de la matière sonore dont on va faire la matière qui va nous servir nous à composer une œuvre nouvelle. Donc ces enregistrements préexistants, ça peut être à peu près n'importe quoi, ça peut être des chansons, de la musique instrumentale, mais aussi des chants d'oiseaux, un discours politique, enfin n'importe quelle bande son qui est enregistrée. Le sampling, c'est ça. Et donc ce que j'ai fait, ce que j'aime bien faire là depuis notamment l'époque de Contrefort, et ça aussi c'était un peu une nouveauté je pense en arrivant ici dans le Royan Vercors, c'est que je me suis beaucoup amusé à croiser des sources qui était originellement très très hétérogène et puis très très diverse.
Plus variée qu'avant, quoi.
Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que en fait, souvent avant, je repérais un sample dans un morceau et puis j'allais, je le mettais en boucle, je créais un ce qu'on appelle un drum beat, donc une partie de batterie dessus, une ligne de basse que je composais, et puis ensuite j'allais chercher comme élément un petit peu complémentaire pour pouvoir égayer un peu la structure. J'allais les chercher dans le morceau que j'avais samplé. J'aimais bien faire ça. Donc un peu, d'une certaine façon, essayer d'épuiser un peu toutes les possibilités qu'offre un seul morceau. Mmh. Ce que j'ai fait sur Contrefort, pas mal, et que j'ai fait énormément ici, c'est que, au contraire, j'ai pris le parti de croiser beaucoup de morceaux dans un même une même composition, des morceaux qui a priori n'ont rien à voir, c'est-à-dire qui sont issus de géographies et d'époques relativement diverses. Je pense par exemple à comment ça s'appelle, Nos rêves font des forêts, le morceau Nos rêves font des forêts qu'on entendra, où il y a des choses issues de la soul des 70s, comme c'est souvent le cas dans mon rap, c'est parce que c'est une musique que j'affectionne particulièrement, mais on y trouve aussi des samples de chants traditionnels mongols, qui sont des très vieux enregistrements qui ont été faits par justement des ethnomusicologues qui sont allés là-bas à l'époque, dans les années, je sais plus, peut-être 50 ou 60, et qui ont enregistré comme ça, juste dehors, quoi, des chants traditionnels.
De traditions orales qui se transmettent
De génération en génération. Et là, moi, je suis tombé sur un chant qui s'appelle donc c'est Little Black Horse, je crois en anglais, le petit cheval noir, pour Nos rêves font des forêts, qui est un chant que j'ai trouvé absolument magnifique, quoi. Et c'est un chant que j'ai trouvé très puissant, qui m'a beaucoup ému et qui venait rencontrer parfaitement, je trouve, le reste de la composition, qui a trouvé sa place. Et j'aime beaucoup opérer ce genre de rencontres parce que au début, c'est des rencontres qu'on soupçonne pas de prime abord. On se dit pas.
C'est pas prémédité.
Non, c'est pas prémédité.
Comme la vie, quoi.
C'est ça. Et c'est assez beau de voir justement ces époques très disparates et ces géographies très diverses se rencontrer à travers une harmonie musicale, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, elles se rencontrent parce qu'en fait, elles font musique ensemble. Mmh. Donc j'aime bien cette idée, même sur un plan politique. Et là, j'ai beaucoup fait ça pour ce disque.
Là, les auditeurs et auditrices le voient pas, mais j'espère qu'ils et elles le verront bientôt. C'est qu'on a dans nos mains le livret magnifique. De ce disque-là, Nos rêves font des forêts, et à chaque morceau, donc il y en a 8, il y a une composition dont on va parler visuelle, mais tu rends hommage au sample, à tes sources. Ça peut-être c'est pas banal non plus je dis rends hommage un peu spontanément, mais est-ce que c'est ça que t'as voulu faire en disant bon, voilà, j'ai pris voilà tel chant mongol,
carrément,
tel morceau.
Non, c'est vraiment l'intention. Alors c'est une intention qui m'a un peu coûté, parce que disons que je crois qu'on en avait peut-être parlé la dernière fois, mais le sampling, c'est une technique de composition musicale qui a jamais été reconnue comme telle par la culture légitime, quoi, culture dominante.
Oui, parce que c'est sûr que ça amène à valoriser des choses qui ne le sont peut-être pas d'ordinaire, quoi.
Ouais, il y a ça. Et puis sur un plan purement juridique, en réalité, quand on fait du sampling, ce que la loi dit de ce que c'est que c'est du vol et que c'est du plagiat. Elle dit pas que c'est de la composition musicale. Et si les ayants droit d'un morceau qu'on a samplé portent plainte, ils auront gain de cause, ils gagneront et on aura une amende de plus ou moins grande.
Et dans la totale illégalité, alors.
Exactement. Et c'était le cas, par exemple, d'un beatmaker que j'aime beaucoup, qui s'appelle Al, H-A-L, qui était le beatmaker du groupe Chien de Paille, un groupe qui avait été signé par le label d'IAM à une époque. C'était en fin des années 90. Ils avaient fait un très beau titre sur la BO de Taxi, le premier film, qui s'appelait « Maudit soit les yeux fermés ». C'était vraiment magnifique. Il se trouve que le rappeur écrit très bien, et puis le beatmaker, elle était très talentueux. Bref, ils avaient fait ensemble un disque où il y avait pas mal de samples, dont un sample d'un groupe francophone. Donc j'ai pas su quel groupe. Et par contre, j'ai entendu cette histoire par Al de sa bouche, qui nous a raconté que le groupe en question a porté plainte pour le sample qu'il avait utilisé. Même si, comme on l'a dit tout à l'heure, en fait, quand on sample, on reconfigure, on découpe, on pitch, on dépitch. C'est-à-dire qu'on soit on augmente la tonalité, soit on la réduit. Souvent on découpe le sample, on réagence les différents bouts pour recomposer autre chose. Donc c'est vraiment, encore une fois, c'est une matière comme si on faisait un collage, quoi. C'est une matière qu'on va utiliser pour faire notre
de création,
notre,
quoi.
De création, c'est ça. Donc on est très loin du plagiat, mais bon. En tout cas, comme la loi ne le reconnaît pas, ce groupe a porté plainte. Ils ont eu gain de cause. Al a écopé d'une amende, je sais plus combien, mais c'était centaines de milliers d'euros, alors que c'était un petit groupe. C'était pas IAM justement, il était pas très connu. Donc ça a été énorme, ça l'a complètement ruiné économiquement. Et en plus, le groupe a demandé, ce qui se fait parfois, les ayants droit peuvent le faire, de détruire, de reprendre tous les disques qu'il y avait dans le commerce, de les détruire jusqu'au dernier. Donc ils ont cassé tous les disques qu'ils avaient mis dans le commerce. Ça faisait partie de la décision de justice. Et lui, ça lui a mis un coup tel que, en fait, après, il m'a dit, j'ai arrêté, en fait, le sampling, quoi.
Oui, j'allais dire, il y a le coût économique, mais il y a le coût moral, émotionnel, psychologique du travail de création qu'il faut détruire. Enfin, ça, symboliquement, c'est hyper fort.
Ouais, c'est très fort, Donc lui, il s'en est jamais vraiment complètement remis. Puis après, il a utilisé d'autres techniques. Il s'est un peu, il a joué un peu des instruments. Il s'est auto-samplé. Il a essayé de, bon, il a fait autrement, mais il a arrêté le sampling en tant que tel. Mm. Parce que ça l'avait vraiment justement trop, enfin ça l'avait détruit quoi. Et du coup, dans ce contexte qui est toujours le même aujourd'hui, c'est très compliqué de revendiquer ses sources parce que justement en fait
c'est risqué en fait.
C'est très risqué, ouais, c'est ça. On s'expose en fait à ce que n'importe quel ayant droit, je veux dire ça peut, parce que moi il y a beaucoup d'artistes que je sample en réalité qui sont décédés, donc c'est des ayants droit en fait. Et après ça dépend un peu de chaque ayant droit à quel point ils sont sympas ou pas. Moi j'ai discuté justement avec un camarade qui fait aussi de la musique là, qui a mixé, masterisé ce disque qui s'appelle Blanca, et lui il me disait qu'une fois il s'est fait choper pour un sample justement, mais il me disait ils ont été plutôt cool, ils ont demandé je sais plus combien c'était, la moitié peut-être de tous les droits d'auteur qu'il avait touché là-dessus, et puis ce qu'il allait toucher ensuite. Ils ont pas demandé de détruire les disques, et puis ils ont pas demandé de supprimer le titre des plateformes, etc. Enfin, et lui, il me disait, bon, moi je trouvais ça réglo. En vrai, c'est ça. Enfin, je veux dire, mais c'est juste que ça dépend vraiment, en fait. Et donc effectivement, l'usage, c'est de se taire. L'usage, c'est de se taire parce qu'en fait, dès qu'on parle de ça, bah, on sait qu'on s'expose. Donc, moi, j'ai pris le parti de le faire quand même.
J'ai fait l'inverse.
Donc, j'y ai longuement réfléchi. Mais je me suis dit, en fait, pour moi, justement, c'est quelque chose qui m'est trop important, que j'affectionne trop le sampling comme technique de composition. Je l'ai beaucoup défendu. J'avais organisé un séminaire là-dessus avec justement avec Imhotep d'IAM, avec Al, le beatmaker dont je parlais, Christian Béthune, un philosophe aussi qui a beaucoup travaillé sur le jazz et le rap.
T'en parles dans Rapologie aussi, ton émission.
J'en parle dans Rapologie, oui, exactement.
Dans Fréquence Paris Pluriel. Ouais. Enfin, c'est quelque chose que tu défends, que tu portes, qui a énormément de sens pour toi.
C'est ça. Donc c'est un peu, pour moi, c'est aussi une lutte politique en vrai. Le sampling, c'est une lutte musicale, esthétique et politique. Et du coup, je me suis dit là, ça me coûterait trop de ne pas mentionner mes sources parce qu'en fait, j'ai envie que les gens aillent les écouter. J'ai envie qu'ils découvrent le morceau original dont j'ai tiré tel et tel sample et qu'ils voient comment, au fil de la composition, du travail de composition musicale, la matière s'est transformée, justement. Moi, je trouve ça passionnant. J'adore faire ça, moi. J'adore voir... tiens, tel, il a samplé tel morceau. D'abord, je découvre souvent un morceau que je trouve magnifique. Et en plus, je vois comment ça a été transformé, réutilisé dans autre chose et comment ça s'est métamorphosé. Et ça, c'est passionnant, quoi, quand on est un peu passionné, justement, de musique. Donc, je me suis dit, bon, je vais quand même les mettre et je compte sur le fait que, contrairement à IAM, je ne suis pas extrêmement connu. Donc, pour l'instant, je me dis, je vends trop peu de disques pour que les ayants droit me tombent dessus en vrai.
Tu prends le risque.
Je prends le risque.
Tu prends le risque avec une affirmation peut-être politique de prendre ta place avec ça et de pas te taire. Enfin, c'est aussi, je trouve, un truc d'affirmation, de dire, maintenant, je vais pas me cacher, jouer le jeu en disant tout le monde fait ça, mais on le fait sans trop le dire. Là, au contraire, tu l'affiches dans ton album et ça fait cette composition. Et en fait, moi, c'est pour ça que je disais hommage, c'est qu'à la fois, tu rends hommage à ces gens qui ont composé, quoi.
Non, mais c'est clairement un hommage, ouais, bien sûr. C'est aussi cette volonté-là. C'est à la fois, je pense qu'il y a au moins deux intentions, celle de rendre compte, comme on disait, de mes sources, de ce dans quoi j'ai été puiser la matière de mes compositions musicales. Et puis d'informer les auditrices, auditeurs, pour qu'ils et elles puissent aller écouter ça, mais aussi de rendre hommage à ces artistes, parce qu'en fait, sans ces artistes, c'est ce que je dis, je pense, dans une des dernières pages du livret, là, dans la page des remerciements, c'est mon premier remerciement. Merci aux autrices, compositeurs et interprètes chez qui j'ai prélevé les petits bouts de ficelle dont j'ai tissé la matière sonore de cet album Patchwork. C'est à elles et eux qu'il doit une tripotée de sa beauté. C'est vrai que voilà, enfin sans eux,
il y a pas de rêve fondé.
Non, c'est ça. Il y a pas, y a, cet album n'existe pas. Donc c'est, je leur dois beaucoup. Donc et je le sais. Et du coup, c'est aussi une manière de leur rendre hommage, effectivement.
Et tant qu'on a le livret dans les mains, il y a une chose qui est fantastique aussi et assez peut-être novateur, c'est la qualité visuelle. T'as eu envie qu'il y ait une création aussi visuelle. Tu t'es tourné vers des amis qui font de la composition aussi. Si tu peux nous en parler un peu de ce travail autour du visuel.
Ouais, bien sûr. Je me suis tourné vers un ami avec qui j'avais déjà travaillé sur l'album Feral. C'est lui qui avait fait la pochette et le livret de Feral. Et qui s'appelle Ludovic Versace, qui est artiste graphique pictural multicasquette. Lui, il fait à la fois de la peinture, de la sculpture. Et puis il utilise toutes sortes de techniques et je pense qu'il aime bien aussi explorer des nouvelles techniques. Ce qu'il a fait là avec ce disque, il me semble-t-il, hein, je crois pas dire une bêtise en disant que je pense pas qu'il avait déjà publié des choses en utilisant cette technique avant. D'après ce que j'ai compris, ça s'appelle le monotype et ça consiste à utiliser une presse mécanique qui passe sur là, en l'occurrence ils ont prélevé pas mal de, ben là aussi ils ont samplé pour le coup, ils ont prélevé pas mal de matière végétale, des tiges, des feuilles, des choses comme ça, et puis ils ont passé ça sous la presse mécanique, superposé différentes couches parfois. Et puis ensuite coloriser des compositions qu'ils faisaient à partir de ce qu'ils avaient en retour en sortie de presse quoi. C'est Ludovic Versace et Fabien Rocher qui ont tous les deux composé tout ça. Ludovic il a fait la pochette et puis il a fait aussi un peu toute la matière qu'il y a dans le livret et dont s'est servi Fabien Rocher pour ensuite faire la mise en page, on va dire tout le graphisme,
la composition.
C'est ça, la composition. Donc c'est un travail commun et puis c'est vrai que moi j'étais et puis en plus bon, il se trouve que Ludovic c'est un ami de longue date et d'ailleurs dont l'un des enfants est mon filleul, et là son fils un peu plus âgé, l'aîné, était allé avec lui à l'atelier, et donc il a aussi travaillé avec la matière végétale et tout, donc c'était assez émouvant de voir qu'ils ont fait ça. Il est allé avec sa compagne aussi, et donc ils ont fait ça en famille un peu, et moi j'étais très ému de découvrir le résultat, parce que ça c'est toujours aussi un plaisir de travailler avec des gens, avec d'autres, c'est que on voit ce que provoque chez d'autres, ce qui nous-mêmes nous anime ou nous émeut, etc. Et on voit ce que ça suscite chez d'autres, et en retour, ça vient nous émouvoir ou ça nous attrape à un endroit qu'on pouvait pas forcément attendre, quoi. Et donc moi, c'est toujours une grande émotion de découvrir ce que les personnes avec qui je travaille sur les albums, sur le plan graphique, quoi, composent à partir de la musique que j'ai moi-même composée.
C'est une rencontre aussi, quoi.
Ouais, c'est vraiment une rencontre aussi. Ouais, carrément.
Et on va justement découvrir, plonger dans un des titres, donc Nos rêves font des forêts, pour donc qui est le titre de l'album, puis on va écouter le morceau là-dessus pour découvrir. Et juste avant ça, je me demandais rapidement si toi, on a parlé de cette question des mots et que bah là c'est un album qui est où les mots sont absents. Est-ce que qu'est-ce que t'en penserais toi si les gens s'en saisissent comme prod pour poser des mots dessus, qu'est-ce que ça te ferait? Est-ce que si t'as des demandes là-dessus ou...
Moi je serais ravi, en fait moi comme je viens vraiment de l'univers du hip-hop et de l'état d'esprit qui va avec, j'aime bien dans le hip-hop, par exemple, ça se faisait beaucoup aussi d'utiliser des phase B, ce qu'on appelle phase B, c'est-à-dire quand un single sortait, il y avait l'instrumental en phase B et n'importe qui pouvait s'en saisir et freestyler dessus, en fait poser son propre texte dessus. Moi j'aime bien cette tradition et donc j'aime bien l'idée que d'autres puissent récupérer ma musique et puis refaire quelque chose à leur sauce avec, donc poser des mots dessus, pourquoi pas. Mais ça me fait repenser que sur la question que tu m'avais posée en début d'émission, est-ce que les mots n'étaient pas venus parasiter cette création? Et pour le coup, justement, c'est vrai que, quand je l'ai composé, par contre, je l'ai vraiment composé comme un album qui serait intégralement instrumental, et où l'espace libéré par la voix du MC ici absente, est rempli par d'autres choses. justement, c'est-à-dire que le fait qu'il y ait plus là, que j'ai plus en tête de me dire, bah là, je vais rapper dessus, donc il faut laisser de l'espace à la voix, parce que dans le rap, c'est quand même assez crucial. Bah en fait, ça libère de l'espace musical dont on peut faire autre chose, à la fois inviter d'autres instruments, d'autres samples, et aussi générer une évolutivité supérieure de la composition. C'est-à-dire qu'elle peut, elle peut un peu prendre ses chemins
se déployer
exactement, parce que on n'a pas besoin d'une régularité parfaite, parce que il y a un rappeur, une rappeuse qui pose dessus. Et donc c'est vrai que, en tout cas, quand quand je l'ai composé, je me suis aussi autorisé ça. Ça m'a ouvert un peu des chemins de composition, quoi.
Ce qui sera peut-être plus compliqué pour que ça fasse une vraie phase B.
C'est ça. C'est ce que je voulais dire. Ouais, c'est ça. Du coup, je pense qu'il y a beaucoup de voix, pas humaines, mais de voix instrumentales déjà dedans. Il y a beaucoup d'espace musical utilisé. Donc je sais pas ce qui reste pour une voix de rappeur ou de rappeuse, mais bon.
Peut-être tu vas être surpris et tu recevras un son de quelqu'un qui a dit voilà, j'ai écrit ça sur ton morceau.
Bah moi je serais ravi d'entendre ça, franchement. Ouais.
Allez, on découvre Nos rêves font des forêts de L'Inconsolable. Nos rêves font des forêts, un des titres de du même album, enfin
de l'album éponyme.
De l'album éponyme, c'est ça qu'on dit. De l'inconsolable. Naïm, j'en profite pour rappeler ou dire ou annoncer que tu seras en concert par chez nous à Saint-Jean-en-Royans. C'est organisé par Batotopie, l'association bien connue avec dans le local La Fumière à la ferme des Roussets. C'est ce samedi 18 avril. À 20h, ça me fait penser que je me demandais avec donc là ça sera plutôt autour de Contrefort, ton album de 2024.
Ouais, ça sera plutôt
je
ça.
Je me suis demandé qu'est-ce que tu vas faire des lives avec avec un album qui est instrumental.
Alors ce sera plutôt autour de Contrefort et néanmoins il y aura aussi quelques morceaux issus d'autres disques et puis aussi deux morceaux inédits plus récents. Dont un peu sur l'IA et le paradigme autour de l'intelligence artificielle et ce que ça fait à nos vies. Mais je jouerai aussi, pour la première fois, un morceau issu de Nos rêves font des forêts. J'essaierai ça. C'est une première. Et donc pour répondre à ta question, effectivement, j'ai longuement hésité. Je me suis dit, est-ce que ce disque, c'est juste un disque qui s'écoutera comme ça, mais qui sera pas joué en live, ou est-ce que j'imagine une manière de jouer en live? Et finalement, me suis décidé plutôt à essayer de faire ça. Mais ça m'oblige à revoir un peu ma manière de jouer puisque
ta présence scénique tout ça.
Ouais, c'est ça, voilà, ouais. Puisque en général en fait ce que moi je fais c'est que je fais play sur l'instru et puis ensuite ce qui se passe sur scène c'est que je rappe. C'est ça qui se passe entre moi et le public, alors que là je rappe pas. Donc il faut qu'il se passe quelque chose sur scène et du coup c'est plutôt avec une machine avec laquelle je compose pas mal qui s'appelle la MPC d'Akai et qui est un vieux sampler très utilisé par beaucoup de beatmakers dans le hip-hop notamment. Et donc là je viendrai avec ça sur scène et puis je déclencherai des samples, différents samples tout au long du morceau en live, en direct.
Voilà. À découvrir donc en tout cas un échantillon ce samedi 18 avril. On se disait justement hors micro que ça faisait du bien aussi cette absence de mots, qu'il y a un truc d'apaisement qui se passe. Donc merci d'avoir tenté ça, un album sans mots. C'est la fin de cette émission micro-ondes, les directs du jeudi qu'on met en place. J'étais ravie de te recevoir, Naïm.
J'étais ravie d'être ici à nouveau, c'est toujours un plaisir.
On rappelle que donc Inconsolable, Nos rêves font des forêts, c'est ton nouvel album instrumental qui sort le 5 juin, donc qui est pas encore sorti, mais qu'il est en précommande sur ton Bandcamp.
Ouais, c'est ça.
Où on peut aussi écouter pas mal de sons. N'hésitez pas. Et puis, de toute façon, vous allez peut-être voir des annonces un peu partout dans l'espace public. Sait-on jamais. Moi, je rappelle que cette émission micro-ondes est rediffusée vendredi soir à 19h et qu'elle sera disponible sur notre site internet radioroyan.fr. Que jeudi prochain, le direct de midi à 13h sera exceptionnellement à l'Arsolite, animé par Patrice, avec des artistes, puis autour des expositions en cours. Merci à Gaël pour la technique. Merci encore Naïm et à bientôt.
Merci à toi.
Oh man, I got a million dreams. It's all I do is dream. All the time.
I thought you played piano.
No, this is not piano. This is dreaming. dreaming.